Voilà donc bonjour chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Ce matin, nous souhaitons attirer votre attention sur un sujet d'actualité, un sujet qui fait parler particulièrement tous les postes de police, leurs bureaux, leurs quartiers généraux. Tous les syndicats des policiers à travers le Québec se mobilisent. Planification, rencontres, discussions, bref, tout le corps ou tous les corps policiers, si vous voulez, du Québec sont en alerte maximale. Pourquoi ? Pour faire reculer le projet de loi numéro 12, loi modifiant la loi sur la police concernant les enquêtes indépendantes, ce qui va marquer automatiquement la fin du régime de la police qui enquête sur la police. Donc le Parti québécois avait déposé il y a 2 mois un nouveau projet de loi numéro 12 visant à instaurer un bureau des enquêtes indépendantes, un organisme composé strictement de civils qui va se charger d'ici un an, si tout va aller bien, d'enquêter sur les agissements des policiers lorsqu'une personne meurt ou blessée gravement au cours d'une opération policière ou pendant sa détention. Donc mettre finalement sur pied, si vous voulez, un comité destiné d'aller vers le but de la justice, vers la transparence, vers la légitimité, vers l'impartialité. Ce projet de loi numéro 12 est tellement inquiétant, alarmant, dirigeant et en même temps dérangeant aussi aux yeux de toutes les associations de police à travers la province pour que le corps policier en général, devient quasiment malade seulement à l'annonce d'un tel projet. Alors évidemment, la question suivante est légitime. Qu'est-ce que le corps policier, qu'est-ce que le corps policier cache au fond de son placard pour avoir aussi peur de l'application de ce nouveau projet de loi numéro 12? Alors je vous rappelle, chères auditrices, chers auditeurs, que pendant le régime des, pendant le règne des libéraux, et plus précisément avec Jean Charest, on parle d'une période qui a duré presque une dizaine d'années. Les bavures policières ont atteint un record sans précédent qui ont forcé l'ex-premier ministre de présenter un projet de loi numéro 46 qui, dans ce sens justement, modifiera soi-disant la loi sur la police concernant les enquêtes indépendantes. Rapidement, il faut souligner que ce projet de loi n'était réellement qu'un vrai écran de fumée pour tenter d'apaiser les esprits qui étaient perturbés par l'incompréhension et la confusion de la controverse. Je vous rappelle aussi, chères auditrices, chers auditeurs, que pendant cette période de Jean Charest au Québec, plus que 339 personnes ont été tuées ou blessées gravement par un policier. Mais or, sur les 339 enquêtes policières menées sur ces incidents, imaginez-vous seulement 3 ont mené à des accusations bidons. Et je pèse mes mots, c'est des accusations bidons. En 2 mots, trop d'injustices. Qui protège qui et pourquoi ? Tout ce que je peux vous dire ce matin, chères auditrices, chers auditeurs, c'est que la loi de l'impunité a trouvé son compte et elle cherche avec tous les moyens possibles et impossibles de prolonger la durée de sa vie à l'infini. Maintenant, les statistiques, chères auditrices, chers auditeurs, que je viens justement de donner étaient rendues publiques sans gêne aucune, mais les interrogations qui se sont bousculées derrière ces révélations ont tordu finalement le cou à l'ex-premier ministre pour revoir la loi de la police qui, semble-t-il, ne se tenait plus debout. Mais malheureusement, malgré l'inquiétude et le désastre, j'utilise le mot désastre, parce que n'oubliez jamais, chers auditeurs, que la mort d'un citoyen injustement, c'est la mort de tous les citoyens. C'est notre propre mort. Cette mort ne peut se rétablir et trouver son sens en absence d'une justice. J'ai dit aussi désastre parce qu'il y avait plusieurs victimes qui sont mortes entre les mains de policiers. Et partir justement comme ça, sans obtenir justice, est un second désastre. Alors cette vérité trop évidente et troublante en même temps, notamment avec la mort de Freddy Villeneuve, ce jeune de 18 ans, et qui est mort gratuitement par la police de l'SPVM, a obligé, au fond, Jean Charest de montrer un nouveau visage de changement à la population encore en deuil. Et pour ce faire, donc, il a consulté d'abord le corps policier en premier concernant un éventuel changement. Et principalement dans cette consultation que le projet de loi numéro 46 nous vient. Finalement aussi, ce projet rendre les choses encore, si vous voulez, encore plus abstraites. Pourquoi ? Parce que le fond de ce projet n'est autre qu'une insulte au malheur de tous les citoyens québécoises et québécois qui cherchent la justice. Le projet de loi, ou l'ancien projet de loi 46, prévoyait que c'est la police qui va continuer à enquêter sur la police et qu'il y aura en parallèle un comité civil composé de policiers retraités ou non, ça n'a pas d'importance. Le hic de cette moquerie, c'est que la fin de l'enquête policière, dans l'ancien projet de loi numéro 46, il y a un nouveau comité qui sera chargé, soi-disant, de superviser le travail des policiers. Et c'est typiquement l'exemple d'un spécialiste d'une scène de crime qu'on va lui confier d'enquêter sur un incident grave impliquant un membre de sa famille. Et on va lui dire, attention, le rapport que tu vas déposer sera vérifié par une firme qui peut avoir le dernier mot. Alors vous comprenez, chers auditeurs, facilement que ce spécialiste va tout faire pour justement dissiper le minimum de doutes qui pourraient incriminer ses membres. Ne lui demandez pas pourquoi, c'est plus fort que lui, c'est l'esprit et le lien de la famille ici qui le pousse injustement vers cette catastrophe d'être injuste. Je vous assure, chers auditeurs, chères auditrices, que j'avais pris le temps d'analyser et d'enquêter plus dans plusieurs cas, dont avec, par un souci, si vous voulez, personnel, bénévole à la recherche de la vérité, et dans tous les cas, et je citerai quelques-uns, parce qu'ils sont tellement nombreux et déchirants ces cas-là, la mort, par exemple, de Jean-François Nardot, par exemple, en février 2012, faisait une analyse, ou plutôt profonde, rapidement, on découvre que cette mort a pu être évitée, justement. L'homme avait sérieusement besoin d'une assistance médicale, et l'enquête que j'avais menée personnellement prouve hors tout doute que le policier qui a tiré sur cette victime était trop vite, et s'il avait pris quelques secondes, je dis bien mais quelques secondes, de plus, la mort de ce jeune musicien a pu être évitée. Et si seulement la presse aussi avait pris un peu de temps, elle a pu aussi révéler d'autres informations utiles dans ce dossier et corriger d'autres qui étaient fausses. Prenez aussi, par exemple, la mort de Mohammadi Farshad, on parle de janvier 2012. C'est une vraie honte pour tous les policiers de l'SPVM. Un itinérant en train de dormir dans une bouche de métro à la recherche d'un peu de chaleur quand les policiers l'ont réveillé. Donc il a paniqué le pauvre et on comprend, il pensait qu'il était objet d'une agression. Quelle sera la réaction d'un tel sentiment ? Écoutez, il sort un exacto sans connaître ou bien même la personne qui était devant lui, donc il blesse un policier, puis il se sauve en disant « laissez-moi, ça c'est selon les témoins, laissez-moi tranquille ». Donc on court aussi derrière lui et on l'exécute froidement. Pourtant, il ne s'est jamais dirigé vers qui que ce soit. Je donnerai aussi un autre exemple, Jean-Claude Lemay, janvier 2011, un homme battu par sa conjointe physiquement et verbalement. Et j'ai rencontré des personnes qui travaillaient avec lui, tous ils étaient d'accord que l'homme était d'une gentillesse marquante. Savez-vous au moins pourquoi il était abattu à son tour aussi par une agent de la SPVM ? Son histoire est aussi troublante que j'ai déjà racontée dans l'une de mes émissions. Est-ce qu'il mérite cette fin tragique, lui, qui a tout fait pour trouver la paix ? Je dirais aussi un autre aussi, permettez-moi de vous donner un autre aussi, qu'il me registre, on lui administre 6 décharges de taser. 6 décharges de taser pour un total de 300 000 volts, on sait qu'en 3 secondes. Le comité a dit une seule décharge était hautement suffisante. Pourquoi les autres ? Aucune réponse. Mohamed Anas Binis, il n'avait rien à voir avec un policier, aucun policier. Il marchait calmement ce matin de décembre 2005, tôt le matin. Il croise 2 policiers, confusion, abattu sur place lui aussi. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la tête de nos policiers avant de faire feu ? Aucune réponse. Benoît Richier, juillet 2004, une poursuite en voiture avec une voiture de patrouille. Résultat, on pense qu'il s'est suicidé. Berniquez. Alors Berniquez, c'était en juin 2003. Et il me fait penser aussi justement à Jean-Pierre Lizotte. Pour être maîtrisé, il fallait lui casser le nez, les vertèbres. Alors, des coups de points très violents, une violence qui dépasse largement l'imaginaire. M. Berniquez est mort sur le coup. Alors tous les deux, suite à ces interventions policières, je parle de M. Lizotte et Berniquez, alors ils sont morts alors qu'ils avaient besoin d'une assistance médicale. La liste est encore longue de personnes qui sont mortes, les autres qui sont encore en vie ou gravement blessées. Je préfère, chères auditrices, chers auditeurs, de ne pas vous en parler. Résultat global, aucune accusation. Et pourtant, comme il disait un ex-commissaire à la déontologie policière, certains de ces dossiers auraient pu être envoyés au procureur, mais qui ne l'ont pas été. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'esprit du corps est plus puissant que la justice. Le nouveau projet justement de loi numéro 12 dit le contraire. La justice est plus puissante que le corps policier. Voilà pourquoi, chères auditrices, chers auditeurs, que le corps policier est en alerte maximale aujourd'hui. Alors, avec ce trop-plein, hein, Madame Marois avait pris l'initiative et sans consulter le corps policier justement, bien sûr, pour déposer son projet de loi numéro 12. Et dans ce projet de loi, Madame Marois disait tout simplement aux policiers « Assez. Assez, c'est trop. Nous allons changer la règle des jeux. » Voilà pourquoi tous les syndicats de policiers se sont révoltés. On parle d'une vraie panique qui touche présentement le corps policier. Et j'ai hâte de voir jusqu'à quel point ils vont aller pour tenter de faire reculer le projet de loi numéro 12 qui dit simplement « Un policier ne va plus enquêter sur un autre policier. » Et pourtant, vous voyez, chers auditeurs, chères auditrices, que normalement, ce n'est pas aussi dramatique puisque nous sommes tous à la recherche de la justice. Et pour faire reculer ce projet de loi, toutes les associations de police à travers le Québec comptent faire des représentations coordonnées et présenter à la fin un rapport en commission parlementaire afin de modifier ce projet. Autrement dit, pour ces gens, personne ne peut enquêter sur la police que la police. Ça veut dire aussi qu'on ne va jamais rendre au peuple le pouvoir qui lui revient de s'opposer à l'injustice. Ce matin, nous allons tenter, si c'est possible, de rejoindre par téléphone un député reconnu pour sa franchise et son courage, M. Amir Kadir, député de Québec solidaire dans le comté de Mercier. Et parmi les questions qu'on va lui poser, y a-t-il des chances que le projet de loi sera maintenu? Et quelle sera la réaction du corps policier devant une telle possibilité? Avec vous, chers auditrices, chers auditeurs, au micro ce matin, Adj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer leur abus de pouvoir. D'un instant à l'autre, Madame Chantal Minou, elle est psychoéducatrice. Elle souhaite aussi à son tour, hein, si on aura le temps, questionner aussi M. Kadir sur une autre problématique qui touche la protection des enfants au Québec. Alors sur ça, je vous laisse avec notre thème musical et nous revenons avec M. Amir Kadir, si c'est possible. On va essayer de le rejoindre par téléphone, de Amir Kadir, député de Québec solidaire dans le comté de Mercier. Restez à l'écoute, chers auditeurs et auditeurs. Je reviens avec après notre thème musical.
Formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur, la main de ma sœur. une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé, entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis comme une apothéose, entre SS et les portés. Après la roue de la fortune, un bas obscène, un bas obscène est à l'une.
Oui, allô? Oui, rebonjour, chers auditrices, chers auditeurs. Donc voilà, juste, permettez-nous, nous sommes en train de tenter de rejoindre M. Amir Kadir. On va reprendre, on va faire une autre musique, le temps de le rejoindre.
Monsieur
Amir Kadir, c'est gentil. Hein. D'abord, est-ce que vous nous entendez bien?
Moi, je vous entends bien. J'espère que vous allez m'entendre bien aussi.
Très, très bien. Alors, d'abord, merci de nous avoir accordé cette entrevue. Et avant d'aller fouiller peut-être dans l'ancien projet de loi numéro 46, qui, soi-disant, tentait de modifier la loi sur la police concernant les enquêtes indépendantes, et le nouveau projet de loi numéro 12, qui tente aussi à son tour de tout modifier, corriger, si vous voulez, ce que la population ne cesse de réclamer depuis très longtemps. Permettez-moi, monsieur Kadir, de vous poser deux questions qui n'ont pas de rapport direct avec ce sujet d'aujourd'hui. Alors, c'est question de routine. Pensez-vous qu'un bon politicien doit s'exprimer de façon franche, autrement dit, dire les choses telles qu'elles sont?
Oui, autant que possible. Pouvez-vous répéter la fin de la question? Je vous ai mal entendu.
La fin de la question, j'ai dit bien, pensez-vous qu'un politicien doit s'exprimer de façon franche, autrement dit, dire les choses telles qu'elles sont?
Mais bien sûr. Évidemment, c'est tout le monde et tous les politiciens vont vous dire que c'est ce qu'il faut faire. Malheureusement, cependant, la réalité, les gens sont capables de le voir, n'est pas au rendez-vous. Cette promesse n'est pas toujours au rendez-vous, mais ça se comprend parce que et il faut pas tout le temps rajouter de la faute sur les politiciens. C'est les sociétés que nous avons bâties, c'est les gens pour lesquels nous avons voté, malgré les choses que nous avons vues. Donc nous sommes tous responsables et ça ne changera pas avant que la population, tout le monde, le plus grand nombre de gens possible, en tout cas suffisamment de gens, se prennent la peine de s'impliquer politiquement, de dire que dans le fond tout ça nous appartient, puis il faut pas voter pour des gens une fois aux 4 ans puis leur remettre les clés et ensuite abandonner la chose.
Oui.
Faut être présent. Les citoyens peuvent être présents de toutes sortes de manières dans leur conseil de ville, dans les manifestations qui se déroulent, en allant voir le député, en écrivant à leurs représentants, de manière à ce que les politiciens soient contraints d'écouter autant la population que les cercles d'intérêt très puissants qui protègent leurs intérêts et qui emmènent les politiciens à prendre les précautions dont vous parlez, là, auxquelles vous faites allusion, où ils peuvent pas toujours, ou ils ne disent pas toujours la réalité.
Alors, pour M. Kadir, pour le mot hypocrisie, ce qu'on entend d'habitude dans le niveau...
Oui, il y en a beaucoup, bien sûr.
Voilà.
Bien sûr qu'il y en a beaucoup.
Oui. Alors, la deuxième question, très rapidement aussi, pensez-vous que la vérité peut faire peur et même faire fuir des membres d'un parti politique?
La vérité, vous voulez dire, c'est parce que votre question, en général, ça dépend de quel parti politique. Si vous parlez
de quelqu'un,
c'est pas le cas.
Ouais, de quelqu'un.
J'espère que ça ne sera pas le cas pour un long bout de temps. Mais si le Québec solidaire devient un parti de pouvoir,
exact,
et que petit à petit, il s'installe dans les mêmes routines, c'est-à-dire de négocier ses intérêts et des intérêts particuliers aux dépens des intérêts du plus grand nombre, oui, ça va être la même chose. Et la vérité ne sera pas admissible parce que la vérité est souvent porteur de beaucoup de controverses et de choses inacceptables. Alors, il faut le cacher. Mais il faut pas... je veux dire, tout en disant ça, moi, je le répète pour dire que, dans le fond, la réponse à ça, ce n'est pas d'abandonner la politique, mais de le prendre en main. Si c'est comme ça, c'est parce que trop de gens ont abandonné la politique entre les mains d'un petit groupe de monde.
Oui.
De sorte que non seulement ces choses-là se déroulent, mais les gens qui ont... La population, au moment de faire des choix puis d'élire des gens, n'est pas bien outillée parce que pas assez bien renseignée. Donc, la seule antidote à ça, c'est une implication. Et de faire des bons choix. Ce n'est pas vrai que tous les partis politiques sont pourris. Ce n'est pas vrai que tous les politiciens sont pourris. En fait, ceux qui sont au pouvoir ont intérêt à ce que les gens croient ça. Pourquoi? Parce qu'une fois que les gens en viennent à être persuadés qu'il n'y a aun espoir, que toute action politique est vouée à l'échec et que toute politique veut dire hypocrisie et mensonge, ben, il n'y a plus rien à faire. Alors, les gens rentrent chez eux. Et la situation continue au profit de ceux qui profitent de la situation actuelle.
Exactement.
Donc, je suis d'accord avec vous seulement pour dire que la seule solution, c'est donc que les gens s'impliquent en politique et investissent les petits partis en émergence qui n'ont pas été au contact de ces intérêts et qui ont une chance de brasser la cage, de nettoyer ça.
Oui.
Et de ne pas laisser les partis trop longtemps au pouvoir. Ça, c'est l'autre solution.
Oui. Alors, c'est-à-dire, ce que vous demandez simplement, c'est l'implication de tous les citoyens. Elle est au-delà de l'attente de tout le monde. C'est-à-dire,
effectivement, exactement. Parce qu'il y a une partie des choses qui se passent, qui se passe entre les citoyens. C'est-à-dire que toutes ces, par exemple, tout ce qui se passe dans le domaine de la construction, ou des contrats d'informatique, ou des firmes d'avocats, de génie conseil, d'architectes qui sont impliqués dans la collusion et la corruption des contrats publics. Il y a des gens qui travaillent là-dedans, il y a des gens qui voient ça. Et chacun se protège un peu parce qu'il dit « Ah, c'est pas de ma responsabilité, j'ai rien vu ». Mais si on fait tout ça, ben on en pâtit tous, on paye tous la note, parce que les milliards qui sont dépensés à trop, en trop, c'est nos impôts qui sont gaspillés.
Exactement.
Ensuite, on peut pas juste imputer la responsabilité à ceux qui ont fait le coup. Nous, par notre silence, par notre inaction, par le fait qu'on a fermé les yeux, qu'on n'a pas dénoncé ça, qu'on n'a pas agi, ben on est responsable aussi. Donc,
exactement.
Je vous le demande. Est-ce qu'on n'est pas responsable aussi tous collectivement?
Tout à fait. Monsieur Amerkadir, j'aimerais bien maintenant fermer cette parenthèse-là et j'aimerais bien revenir à un autre sujet d'aujourd'hui. Vous savez très bien. J'aimerais bien, pouvez-vous nous dire quelle est votre perception, quelle était plutôt votre perception sur l'ancien projet de loi numéro 46 qui a été déposé dans le temps des libéraux, justement
oui.
comme une porte de sortie à une crise, hein, si vous voulez.
Oui.
Alors, on vous a choisi parce que pour nous, c'est la franchise. Hein.
D'accord.
On vous écoute.
C'est parce que je perds par moment vos questions. Je ne sais pas si c'est à cause de mon cellulaire ou cause du studio.
Je répète, vous me demandez de réagir
sur le nouveau projet de loi 12 par rapport au 46.
Je vous demanderai sur votre perception sur l'ancien projet de loi 46.
Mais l'un dans un cas comme dans l'autre,
oui.
Ça traduit une culture policière et l'influence qu'a la Sûreté du Québec et les liens politiques entre la Sûreté du Québec et le gouvernement, qui fait en sorte que dans les deux projets de loi, on assujettit quand même beaucoup ces enquêtes-là au bon vouloir des policiers. Je vais vous donner un exemple. Là, je ne connais pas assez bien, je me rappelle pas assez bien le projet de loi 46, parce que j'ai
fini
à plutôt étudier le nouveau projet de loi, puisque c'est de celui-là qu'il faut traiter.
Le 12, tout à fait, oui. Non, mais
Pardon?
C'est parfait, vous pouvez continuer.
Oui. Alors, pour le nouveau projet de loi, qui essaye même d'améliorer le 46, qui avait déjà des carences.
Exactement.
C'est que, par exemple, les enquêteurs peuvent être choisis parmi d'anciens policiers ou de policiers encore en exercice. Alors qu'au minimum, comme l'a fait la Colombie-Britannique, il faut s'assurer soit que ces policiers-là soient à la retraite depuis un laps de temps suffisamment longtemps pour briser les liens, comme par exemple 3 à 5 ans, soit que ce soit des policiers venant de d'autres juridictions, de d'autres provinces, qui n'aient pas de lien avec les policiers sur place. Un. De deux, les enquêtes, une fois complétées, ne sont pas rendues publiques automatiquement. Ça dépend du bon vouloir du ministre. Ça ne marche pas.
Oui.
Troisièmement, il n'y a rien dans la loi qui contraint les policiers lorsque un événement est survenu. Et que, par exemple, prenons le cas de Freddy Villanueva quand il a été assassiné.
Oui, oui.
Un des problèmes de l'enquête, c'est qu'on n'a pas séparé les témoins comme on le fait dans n'importe quel scène de crime. On n'a pas séparé les policiers. On ne leur a pas demandé de fournir leur rapport écrit. On ne les a pas questionnés immédiatement après les faits pour avoir les renseignements les plus utiles. On a attendu des semaines et des semaines, et puis finalement, donc, on a tout contaminé les preuves et les témoignages de toutes sortes de manières.
Ça,
alors, il
n'y
a rien dans le nouveau projet de loi qui répond à ce problème qui a été signalé à plusieurs reprises par tous ceux qui sont impliqués dans ces dossiers-là pour dire voici les carences, voici les problèmes quand on fait une enquête sur les bavures policières ou des morts aux mains des policiers.
Oui.
Juste un moment. Est-ce que la porte s'ouvre? Excusez-moi.
Mais, M. Kadir?
Ça s'interrompt.
M. Kadir?
Allô?
M. Kadir?
Oui, je ne vous ai pas entendu du tout, je m'excuse.
Je veux juste savoir maintenant, le projet de loi numéro 12, hein, vous savez qu'il vient dans cette foulée de changements politiques, à votre avis, comment la population peut lui apporter son soutien?
Au projet de loi 12?
Oui.
Je pense que la population doit... les groupes populaires qui s'intéressent à la justice et surtout de s'assurer qu'il n'y a pas d'abus par les corps policiers doivent aller rencontrer leurs députés, doivent vraiment prendre les choses. Il y a plein de communautés, par exemple, la communauté noire du Québec, les communautés arabophones, les communautés latino, qui ont vu à quel point le profilage racial a entraîné des problèmes. Ils doivent aller voir les policiers, je veux dire, le directeur de la police, pour forcer les directeurs de la police d'apporter des correctifs et de ne pas faire des pressions indues sur le gouvernement. Ensuite, ils doivent voir surtout leurs députés, téléphoner à leurs députés, écrire à leurs députés de dire « ça ne va pas ». Et je vous invite à ce moment-là d'aller voir sur le site de la Ligue des droits et des libertés,
oui,
qui va fournir une grille d'analyse justement pour parler des déficiences de ce projet de loi. Donc d'aller voir sur le site de la Ligue des droits et des libertés des compléments d'informations qui vont leur être utiles pour rencontrer ou pour écrire à leurs députés pour demander que le projet de loi 12 soit modifié pour que ça soit vraiment, ça introduise un bureau d'enquête vraiment indépendant qui puisse en toute justice faire la lumière lorsque une personne est gravement blessée ou tuée aux mains de la police.
Oui, mais monsieur Kadir, je vous dis aujourd'hui que le corps policier, vous le savez mieux que moi, est en alerte maximum contre ce projet. Est-ce que, projet 12, hein, est-ce que ceci, selon vous, est justifiable?
Si ceci est...
Justifiable. Est-ce que cette alerte, cette panique, oui, du corps policier contre ce projet de loi numéro 12, est-ce qu'elle est justifiable?
Ben, de leur point de vue, oui, parce que ça va changer leur habitude, ça va les bousculer, ça va les incriminer, et ça va leur enlever la liberté d'agir comme bon leur semble. Quand je dis ça, là, c'est pas parce que tous les policiers veulent mal faire.
Ah, pas
ils
du
veulent
tout,
pas avoir de contraintes, veulent pas avoir quelqu'un qui leur dit quoi faire, veulent faire ce qu'ils pensent le mieux sur le coup. Et là, le problème, c'est qu'il y a certains policiers qui sont pas bien formés, certains policiers, comme dans tout n'importe quel corps ou formation sociale, qui ont des comportements inappropriés, puis c'est là que cette liberté qui leur est donnée fait mal, parce que c'est ces individus-là, ensuite, qui se comportent de manière excessivement déplorable, et qui causent blessures, qui causent des morts, et c'est pour ça qu'il faut pas laisser le lobby des policiers agir seul. C'est pour ça que les citoyens doivent aller faire pression sur la direction de la Sûreté du Québec. Tous les groupes de citoyens qui sont organisés alentour de ça, là, de ne pas se gêner d'aller rencontrer M. Marc Parent, directeur de la SPVM, d'aller rencontrer les députés pour leur dire, écoutez, il faut vraiment avoir un bureau d'enquête qui restaure la confiance du public dans la police.
Très bien. Maintenant, M. Amir Kadir, je demanderai, j'ai une autre question aussi, à propos toujours de ce fameux projet de loi 12, s'il sera maintenu, et quelle sera la réaction comme moyen de pression sur le gouvernement du corps policier devant une telle possibilité?
Bon, là, je pense qu'on ne se comprend pas parce que vous parlez du projet de loi 12 comme si c'était la solution à tous les problèmes.
Non, c'est pas du tout. Je dis pas la solution.
Si le corps policier s'active contre le projet de loi 12, c'est que le projet de loi 12, malgré toutes ses insuffisances, c'est déjà trop pour eux. Mais le projet de loi 12, malgré le trop pour les policiers, c'est pas assez pour avoir vraiment un bureau d'enquête indépendant.
Exactement.
D'accord?
Tout à fait.
Donc, je vous resignale que la solution à plus long terme pour ce genre de problème-là, c'est de voter pour des gens qui sont à l'écoute des citoyens d'abord. Et c'est ça la fonction de la démocratie. En principe, la démocratie doit être ça. On met en place des citoyens qui sont à l'écoute, on met en place des gens qui sont à l'écoute des citoyens de l'intérêt général, pas des groupes constitués d'intérêts comme les grandes corporations, les hommes et les femmes puissants et riches ou puissants parce qu'ils sont dans les corps policiers.
Exact.
Donc, ceci étant dit, ben, il faut faire pression sur le gouvernement pour aller plus loin et pour dire que c'est pas avec ceux qui ont créé le problème qu'on peut résoudre le problème.
Exactement.
Donc, s'il y a des problèmes dans le corps policier, c'est pas en les écoutant qu'on va les régler. On peut pas demander au loup de nous donner son avis sur comment assurer la sécurité de la bergerie.
Tout à fait.
D'accord.
Oui, mais c'est qu'à dire...
Maintenant, je ne veux pas dire que tous les policiers sont des loups, mais dans le contexte, c'est qu'on veut assurer la sécurité des citoyens et surtout des mesures pour pouvoir adéquatement incriminer s'il y a des abus qui ont été commis par des policiers. Donc, comme dans ce cas de figure, il s'agit d'assurer la protection de certains contre d'autres, donc dans ce cas de figure, c'est mon analogie est adéquate, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux policiers de donner leur avis sur le meilleur moyen d'enquêter sur eux. Il faut les exclure de ce débat-là, il faut arrêter d'être à leur écoute.
Très bien. Monsieur Amirkadir, maintenant, je vous poserai une autre question à propos de l'agent 728. Vous savez que les citoyens savent que vous avez fait quelques manœuvres pour faire réanimer les accusations contre l'agent 728. Pourquoi nous sommes rendus vraiment à ce stade d'intervention? Autrement dit, est-ce que notre système
non,
judiciaire...
C'est excusez-moi. Vous me demandez de vous parler d'évidence. C'est sûr que... Dans le cadre actuel de la loi, la police peut laisser traîner les choses.
Voilà.
Et là, ils ont recours à toutes sortes de subterfuges pour que ça ne ressorte pas, parce que chaque fois que ce genre de choses incrimine les policiers, c'est tout le corps policier qui est mis sur la sellette et qui est jugé. Donc, c'est sûr que c'est normal. Donc, moi, ça m'intéresse même pas de savoir pourquoi ils font ça. C'est normal qu'ils fassent ça.
Oui.
Ce qui est pas normal, c'est que les citoyens ne protestent pas assez.
Exactement.
Puis que les citoyens ne prennent pas le téléphone tout de suite après vous avoir entendu pour appeler leurs députés. Là, il faut appeler les députés péquistes. D'accord? Les députés du PQ. Pour dire, écoutez, là, comment ça se fait qu'après 5 mois, octobre, novembre, décembre, janvier, on est rendu février. Après 4 mois complets, les accusations occasionnées par l'intervention de l'agent 728, donc les 4 pauvres gens qui ont été injustement incriminés, il y a encore des accusations qui pèsent contre eux, les causes n'ont pas été abandonnées. Pourquoi on n'a pas le rapport d'enquête sur l'agent 728?
Oui.
C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Il faut poser la question à ceux qui décident, c'est-à-dire donc, par exemple, au ministre de la Sécurité publique, M. Stéphane Bergeron. C'est pour simplifier la tâche de vos auditeurs. Allez sur Internet ou demandez au 411 le numéro de téléphone de son bureau de comté, puis appelez son bureau de comté. Laissez des messages.
Maintenant, M. Amirkadir...
Il ne faut pas abandonner. Il faut augmenter la pression.
Un très bon conseil.
Merci beaucoup de votre attention, M. Hadji.
Oui, mais je n'ai pas fini, M. Kadir.
Très bien. C'est parce que les conditions de... Moi, je vous entends avec difficulté.
Moi aussi, mais quand même, les auditeurs, je pense, les auditeurs, ils écoutent très bien. J'aurais juste peut-être une dernière question à propos dans le dossier de Mohammadi Farshad.
Oui.
Cet itinérant-là, j'ai appelé hier la déontologie policière et savoir qu'est-ce qui est arrivé. Donc, il me répondait, la réponse était que la SQ, jusqu'à présent, ils n'ont pas fini leur enquête. Alors qu'on savait que ce type-là, il est mort depuis janvier 2012. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez des nouvelles?
Malheureusement, aucune nouvelle. C'est sûr que je ne peux pas m'occuper de tout. Et comme dans ce dossier, Farshad Mohammadi n'avait aucune parenté au Québec ni au Canada.
Alors, il n'y a personne qui va le défendre.
Pardon?
Alors, il n'y a personne qui va le défendre.
Il n'y a personne qui a logé une plainte qui soit recevable immédiatement. Ensuite, moi, si je dois loger une plainte de ma part... Ça va paraître comme une espèce de comment on pourrait dire de manœuvre politique. Et rappelez-vous, on était en plein milieu d'une crise étudiante l'année dernière, où on avait un combat à mener justement contre certains agissements du corps policier au profit du pouvoir en place pour réprimer les étudiants. Donc, il faudrait que les citoyens braves se constituent en partie plaignante et aillent déposer une plainte et une demande de plaintes contre les policiers qui ont tué Farshad Mohammadi.
Tout à fait. Alors, M. Amirkadir, de la part de toute l'équipe de Mouvement Action Justice, on vous dit merci et passez une belle journée.
Merci, M. Mohammadi. Au revoir.
C'est correct. Rebonjour, chère auditrice, cher auditeur. On va juste prendre 2 minutes et puis on va en revenir. Malheureusement, on n'a pas pu. La ligne a été très. On n'a pas pu entendre très bien M. Kadir parce qu'il nous a appelé dans son cellulaire, à partir de son cellulaire. Alors, on va finir l'émission. On va continuer avec Mme Minou Chantal, psycho-éducatrice. Elle avait des questions à poser aux députés, mais on n'a pas eu l'occasion malheureusement. Alors on va lui questionner, on va savoir qu'est-ce qu'elle peut nous rapporter aujourd'hui. Rassir, elle écoute, dans quelques secondes on va revenir avec vous.
Si je m'ouvre et te laisse entrer, sauras-tu laisser saigner la plaie? Tu te laisses t'y noyer. Elle qui me saoule, toi qui m'enivres. qui saigne mon cœur, toi qui le ravive. Oh, 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 délice pernicieuse. Oh, oh, sans gêne, moratoire affectif. Manipuler sa flamme pour brûler à vif. Ah, 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 douleur délicieuse. Ah, manger des oreillers, baiser chocolat, café au lait, gifle affective qui fouette carré. Si je m'ouvre et te laisse entrer, sauras-tu laisser saigner la plaie?
Voilà donc, rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors, on n'a eu pas, malheureusement, vous avez tous entendu, on n'a pas eu la chance de continuer à parler avec M. Amir Kadir parce que la ligne a été un petit peu... Il nous parlait à partir d'un cellulaire et la ligne a été... on a eu de la difficulté, par exemple, à entendre et des coupures par moment. Donc, j'ai devant moi aussi Mme Chantal Minot, psycho-éducatrice, qui a souhaité aussi poser quelques questions, peut-être deux questions, je pense, M. Kadir. C'est à propos concernant... vraiment nos enfants, la protection de nos enfants ici. C'est un problème, selon elle, qui est devenue presque spécialiste par le parcours qu'elle mène. La question, elle est grave et inquiétante. Alors, elle est devant moi. Bonjour, Mme Minot.
Bonjour, Monsieur Zitouni.
Ça va bien?
Excellent. Moi, ça va très bien. Très bien. Par contre, c'est pas le cas de plusieurs. Ouais, il y en a plusieurs que ça va vraiment pas bien, par contre.
Alors, vous avez souhaité, ou peut-être on aura l'occasion de le faire, vous avez souhaité poser au député Amir Kadir deux questions. C'est autour de quoi et pourquoi vous êtes aujourd'hui ici? Alors, je signale aussi qu'on aura l'occasion de faire une autre émission avec vous, exclusivement sur ce sujet-là, parce que c'est quand même, ça touche quand même les enfants, nos enfants, les enfants du Québec.
Oui. Écoutez, étant donné que je n'ai pas pu poser la question à M. Kadir, je poserai ma question à l'ensemble de l'Assemblée nationale du Québec. Hein? Ça s'adresse à tous nos députés. Je demanderai à l'ensemble des députés si, depuis qu'ils sont députés, ils sont au courant de certains abus de la part des intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse envers des enfants et les parents au Québec. Oui. S'il y a des gens, s'ils ont su des éléments de preuve, s'ils ont entendu. Et si c'est le cas, de prendre le temps de regarder, de ne pas tenir compte de ceux qui ont du pouvoir, qui vont dire qu'ils ont des problèmes de santé mentale, de prendre le temps de ne pas jeter ces courriels-là, de prendre le temps vraiment de regarder les éléments de preuve qui leur sont envoyés. Mm-hmm. Parce que la méthode, c'est de dire, oh, ils ont des problèmes, c'est un cas isolé. Alors, les gens, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas s'imaginer que les gens peuvent mentir. Alors, ils mettent ça de côté. Alors, Je mets en garde, je suis convaincue qu'il y a des gens qui les ont informés parce que moi, depuis l'année passée, j'ai eu connaissance depuis le 28 février 2012. Écoutez, je ne croyais pas que ça se pouvait. Mmh. Même moi, en octobre encore, je pensais que c'était des cas isolés, je vous en assure.
C'est pas le cas.
Non, vraiment pas. Et c'est très grave. Et c'est très, très grave. C'est vraiment, la DPJ compromet sérieusement et gravement le développement de plusieurs enfants au Québec et mène vers le suicide. C'est vrai, là.
Ces enfants,
vers le suicide. Des enfants et des parents également, des grands-parents aussi, et j'en ai les preuves. Je n'ai aucune inquiétude des menaces qu'on me fait sans arrêt, de me poursuivre ou de m'attaquer, de faire des plaintes à mon ordre. J'ai tous les éléments de preuve. Écoutez, j'ai au moins 9 enfants, en plus de leur famille. Alors, je suis vraiment très, très outillée pour le dire à ce moment. Et j'ai attendu d'ailleurs, parce que je voulais prendre connaissance par moi-même, de ce qui se passait à la Chambre de la jeunesse, que je dirais plus que pour moi, mon vécu, c'est la chambre de la détresse. Oui. C'est désolant. C'est désolant parce qu'on compte sur la justice pour protéger nos enfants et ce n'est pas le cas.
Oui. Ce n'est pas dit oui dire. Hein. Vous avez quand même un parcours. Hein. Vous travaillez avec, dans ce domaine-là depuis combien de temps, madame? Vous accompagnez les enfants. Vous êtes dans le milieu, dans le terrain.
Écoutez, depuis mon adolescence, hein, parce que j'animais depuis que je suis toute petite. Mais dans le système comme psychoéducatrice, j'ai commencé à mes stages en 94-95. Alors, j'ai commencé à être vraiment dans le milieu des centres jeunesse. J'ai fait mes stages en centre jeunesse. Et c'est la raison pour laquelle j'avais de la misère à croire ça, parce que pour moi, dans les centres jeunesse, j'ai connu des gens très compétents. En majorité, j'ai appris énormément. C'est là que j'ai appris. C'est là que j'ai appris ma compétence. C'est sûr qu'il y en a toujours des individus qui peuvent abuser, mais j'ai vu des interventions, j'ai vu des choses qui s'est fait. Ils n'ont pas laissé faire ça. Mais j'ai jamais été mis au courant. La DPJ et les centres jeunesse, c'est vraiment deux choses séparées. Hein. Ils n'arrêtent pas de mélanger, mais il faudrait séparer parce que ce n'est pas du tout le même département. Ce n'est pas les mêmes bureaux et ce n'est pas les mêmes intervenants.
Ouais. Mais pourtant, vous êtes parmi les rares, ceux qui ont travaillé dans les centres de jeunesse et tout, et qui critiquent aujourd'hui. Ça veut dire, je trouve que vous êtes comme ressorti un petit peu de ce milieu-là pour le voir de loin et dire que c'est faux ce qui se passe là. C'est injuste ce qui se passe.
Oui, mais écoutez, moi, dès mes stages, on a voulu m'éliminer parce que j'avais la vocation. Et j'avoue sérieusement que j'ai
Vous êtes en train de nous dire ça avant même d'aller sur le terrain, vous avez déjà une idée?
Mon premier stage, ils ont voulu m'éliminer parce que je me faisais dire que j'avais la vocation. Oui, j'ai eu des problèmes avec certains individus, mais j'ai été entendue par les centres jeunesse, j'ai été entendue par l'Ombudsman de l'Université de Montréal aussi, mais j'ai dû me défendre parce qu'il y avait certaines personnes qui ne voulaient pas, non, effectivement, que je sois psychoéducatrice. Ils sentaient en moi quelqu'un qui pouvait peut-être mettre en danger leur petite sécurité. Je l'ignore, mais je peux vous dire une chose, c'est que j'ai décidé de continuer, si vous me permettez, je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que j'ai voulu abandonner, je l'admets, parce que ça m'a déçue.
Ça, au niveau de la formation, on parle de formation.
Oui, en 1994.
Juste en parenthèse, parce qu'il y a une confusion, quelqu'un qui n'a pas été encore sur le terrain et déjà il a une idée que les choses ne fonctionnent pas bien.
Il élimine dès les stages, ça se fait dès l'université. Moi, c'est ça que j'ai vu. J'ai des collègues qui ne veulent même plus être psychoéducatrices tellement qu'ils sont déçus.
Alors, une sélection ou quoi?
Oui. Parce que si on dénonce, on coule notre stage. Si on défend les enfants, ils nous mettent en échec de stage. C'est carrément ça qui se produit et c'est ça que j'ai vécu. J'ai dû me défendre parce que j'ai défendu des enfants dès mes stages. Oui. Mais écoutez, il n'y a personne qui va m'arrêter. Mais je ne voulais plus être psychoéducatrice, mais je suis allée à l'Association des psychoéducateurs du Québec et j'ai découvert des gens comme moi. Alors, j'ai décidé de rester. Mais j'ai décidé de rester aussi pour David, il s'appelait David, c'est un jeune homme des centres jeunesse, ça fait très longtemps. Il m'avait dit dans mes stages, Chantal, je te vois pas du tout. Si j'étais, mon Dieu, je dis, comment ça, tu me vois pas, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis genre à me remettre en question. Il m'a regardé, il dit, t'as rien fait? Il dit, parce que toi, tu nous souris, t'as pas d'affaires ici. Mm-hmm. Écoutez, c'est ça qui a fait que je me suis questionnée pendant tout le temps des fêtes après qu'il m'ait mis en échec de stage. Et j'avais aussi, je travaillais à Promis comme bénévole. Et André Ménard, la directrice, m'avait dit, Chantal, aide-toi, le ciel t'aidera. Laisse-toi pas faire, ils ont besoin de toi. Puis j'ai pensé à David qui m'avait dit ça. Puis je me suis dit, imaginez si tout le monde qui sont comme moi, qui veulent aider, s'en vont. Mm-hmm. Qui reste?
Mais Madame Chantal Minou, quand vous allez accompagner quelqu'un, vous essayez de défendre, hein, vous n'êtes pas une avocate, mais avec toute votre connaissance autour de et votre observation et votre suivi et tout, quand vous voulez aller défendre un enfant et tout, est-ce que vous arrivez à pas affirmer, mais est-ce que vous arrivez à convaincre l'autre comme quoi ces agissements-là, ils sont injustes, ils sont
c'est un gros travail. Mais on y arrive. Écoutez, on appelle ça l'effet de halo, l'effet Pygmalion. Mettez-le comme vous vouliez. Ouais, ouais. C'est des gens qui ont du pouvoir et beaucoup d'influence. Et il faut se battre contre ça parce que la première chose qu'ils font pour ne pas nous faire entendre, c'est de dire qu'on a des problèmes de santé mentale. Écoutez-la pas.
Contre vous.
Ah oui, contre moi aussi. Oui, oui. C'est les parents en premier. Les enfants, les parents, c'est les intervenants qui les défendent. On est tous dans la même catégorie.
Si vous défendez un enfant, alors on vous dit que vous n'êtes pas...
Ah non, pire que ça, on m'a enlevé mon diplôme à la Chambre de la jeunesse. Il y a une juge qui m'a enlevé mon diplôme. Elle a décidé que j'étais plus psychoéducatrice, qu'elle ne m'entendait pas, qu'elle refusait mon rapport, même si c'est maintenant une activité réservée
aux psychoéducateurs. Parce que vous voulez défendre d'un enfant.
Oui, elle a refusé des témoins de la mère, oui, parce que c'est un enfant d'ailleurs qui est en train de mourir à cause de la DPJ, puis personne ne fait rien. Il semblerait que c'est permis au Québec.
Mais c'est grave ce que vous êtes en train de dire.
Très, très grave, très, très grave. Mais c'est ça qui se passe. Mais personne ne fait rien. Les médias ne dénoncent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs professionnels impliqués. Mais les professionnels, ce n'est pas de leur faute. Ils ont été induits en erreur par la DPJ qui manipule les professionnels en donnant juste une partie de l'information, ce qui induit en erreur les professionnels, puis qui font des rapports, justement, qui sont erronés. Mais pas parce qu'ils le veulent, parce qu'on les a induits en erreur, parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer qu'un intervenant représentant autorisé de la DPJ peut mentir à ce point. Alors, il se fie là-dessus, mais comme moi, dans mon cas, le Stéphane Clavette, M. Stéphane Clavette, délégué, là, il n'arrête pas. J'ai plusieurs enfants qui... Il détruit nombre de vies d'enfants et de familles. Je ne sais pas comment ça que la Direction de la protection de la jeunesse le laisse là. Il ne fait partie d'aucun ordre professionnel. Il décide de ne pas hospitaliser un enfant malgré l'opinion de plusieurs pédopsychiatres, de psychologues, de psychoéducateurs, de travailleurs sociaux. Écoutez, je ne sais pas. C'est Dieu. Il décide
même,
tout.
Même avec des spécialistes qui peuvent arriver...
On est tous des dérangés, puis on se mêle tous pas de nos affaires.
Madame Milou, on va juste prendre une petite pause musicale, on va revenir avec le reste de l'émission, OK?
L'autre soir, je suis sorti de mon trou, histoire de voir qu'est-ce qu'on y trouve. Est-ce que j'ai vu, ça m'a déçu. Les gens que j'aimais sont rendus fous à cause de cette soif étanche, de cette foutue poudre blanche. Et quand tu plonges à plein nez, tu penses que tu planes, mais c'est faux, c'est le saut de l'ange vers le fond du gouffre. J'espère au moins que tu bouffes, car pour l'instant t'as l'arme, un brin d'herbe qui s'étouffe. Et je souffre de voir ça, mon frère, de voir que tu détruis de la sorte, ça m'attriste. Ce que je voudrais, c'est que tu t'en sortes, mais à quel prix? Quand je pense à tout ce que tu m'as pris, avec l'emprise que t'as sur moi, et puis tes crises et tes cris. Mais ce qui me tue le plus, c'est vraiment que j'y peux rien.
Alors bonjour chers auditeurs, chères auditrices, je reprends toujours mon entrevue aujourd'hui, ce matin, avec Madame Chantal Minou, psychoéducatrice, une dame qui est toujours pris avec le centre de jeunesse, c'est ça Madame Minou?
Non, la direction de la protection de la jeunesse.
La protection de la jeunesse surtout. Et ce combat que vous menez Madame, il vous amènera... à quelque part.
Bien, là, en ce moment, depuis l'année passée, je constate ça. J'ai constaté le manque de respect de nos lois, des droits des enfants et surtout la destruction de nombre d'enfants et de familles. Je ne compte pas, étant donné, maintenant que je suis au courant, laisser ça là. Alors, on est en train de réunir nos forces parce qu'il y a beaucoup de gens qui se battent depuis des années. Ils laissent croire que c'est des cas isolés. Ce ne l'est pas. Alors, mon intention est de rassembler l'ensemble des gens qui se battent pour la protection des enfants et qu'ensemble, on réussisse à faire changer cela. Et on est en train d'ailleurs de développer une association internationale à cette fin aussi.
Internationale?
Oui, parce que les médias d'ici bloquent
pourquoi
l'information.
Ça passe
là, c'est déjà, on est en train de le finaliser. Et si les médias ici n'en parlent pas, ils vont en parler en Europe.
Oui.
Ça va être comme ça.
Parce que vous êtes presque bloqué ici à ce niveau-là au Québec.
Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de menaces.
Derrière les frontières pour aller chercher un petit peu la couverture médiatique.
Oui, parce qu'il faut... Écoutez, ça va contre toutes les conventions internationales qu'on a signées pour les droits de l'enfant. C'est un manque de respect et je crois que malgré toutes les... Il n'y a personne qui va me convaincre qu'une procédure, qu'un tribunal, que toutes nos lois passent par-dessus la vie d'un enfant. Pour moi, la priorité, c'est un droit à la vie. Un droit à la vie, c'est primordial, autant un enfant qu'un adulte.
Mais c'est quoi l'intérêt d'un tribunal de briser la vie d'un enfant?
Ils n'ont pas d'intérêt là-dedans, pas du tout. Je crois que c'est sincèrement que c'est l'effet de halo. Comme plusieurs intervenants de notre système, je ne crois pas que c'est l'intention de personne. Oui. C'est des personnes individuelles qui ont réussi à se placer à des postes de pouvoir, qui ont vraiment de pouvoir, d'influence. Puis le monde ne peut pas croire qu'ils sont prêts à mentir autant, mais c'est vrai. Il va falloir que le monde accepte que la méchanceté existe, que ce n'est pas un problème de santé mentale, que ça existe vraiment, puis qu'on arrête de justifier toute la méchanceté par des problèmes de santé mentale. Écoutez, j'ai travaillé en psychiatrie. S'il y a bien un endroit où j'ai vu moins de méchanceté, c'est bien là. C'est des gens vulnérables qui avaient besoin d'aide. La méchanceté, je peux vous garantir, c'est pas en santé mentale. C'est des gens qui ont toute leur tête puis qui utilisent vraiment toutes sortes de manigances pour avoir le pouvoir et le dessus sur les plus démunis.
Oui.
Écoutez, moi, j'aimerais poser une dernière question, si vous me permettez, à l'ensemble de l'Assemblée nationale, aux députés. Je demanderais s'ils sont au courant, depuis le 20 septembre 2012, l'évaluation d'une personne dans le cadre de la loi de la protection de la jeunesse et dans le cadre des décisions prises par la Chambre de la jeunesse, ça relève maintenant d'une activité réservée aux psychoéducateurs, aux psychoéducatrices du Québec et des travailleurs sociaux du Québec. Est-ce qu'ils sont au courant que les ensembles des travailleurs de la Direction de la protection de la jeunesse qui n'ont pas cette formation et cette compétence ont obtenu un droit acquis pour le faire? Autrement dit, cette loi ne sert à rien et ne sera applicable que dans 30 ou 40 ans.
Oui.
Alors, que comptent-ils faire? Vont-ils faire quelque chose pour protéger nos enfants? C'est la première chose à faire. Si, je vous le dis, là, s'il y avait des gens qui ont la compétence, pas des gens... Écoutez, j'ai la misère à comprendre qu'un criminologue qui n'a pas un cours en développement de l'enfant, qui ne fait pas partie d'un ordre, se permet d'intervenir auprès des parents. Je suis désolée, chacun sa compétence. Qu'un sexologue aussi fasse ça. Je pense qu'on a chacun notre compétence, puis il faut la respecter, parce que là, c'est la vie d'enfants et de familles qu'on détruit. Alors, je demanderais, est-ce qu'ils ont l'intention de faire quelque chose pour protéger nos enfants au Québec concrètement? Parce que là, je leur dis, c'est grave, l'heure est grave. Il y a un enfant même qui est en train de mourir parce qu'un intervenant qui n'a pas la compétence refuse d'hospitaliser l'enfant à Rivière-des-Prairies.
Voilà, ça c'est... Sans donner des noms, je pense que ça ne sert à rien de donner des noms, mais il y a présentement, parmi les enfants, un en particulier qui a vraiment besoin de l'aide.
Oui, parce que depuis 2008, on refuse de l'hospitaliser et de le réévaluer. C'est inacceptable. En 2008, on l'a enlevé à sa mère en disant que c'était minuit moins une, parce que supposément que c'était elle qui lui nuisait. Et là, il est rendu tellement pas bien que depuis 2009, on le médicamente avec des gros médicaments qu'on donne à des schizophrènes, monsieur.
Oui, oui.
Depuis qu'il a 4 ans et demi, 5 ans. Là, il va avoir 9 ans.
Oui.
Écoutez, c'est inacceptable. Oui. Pourquoi qu'on lui donne ça? Monsieur, c'est la contention chimique. Parce qu'il est rendu... Il crie tellement sa détresse, il parle plus, il sait plus ses couleurs, il n'est plus capable de rien faire.
Et j'imagine ce dossier-là, il y a plusieurs instances qui sont au courant de cette situation.
Tout le monde est au courant, mais ils n'ont pas le pouvoir.
Personne réagit.
Mais parce que Monsieur Stéphane Clavette a décidé qu'il ne ferait rien.
Alors voilà, malheureusement, c'est tout le temps qui nous reste dans notre antenne. J'aimerais remercier M. Amir Kadir pour avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, mais également, je remercie aussi Mme Chantal Minot pour sa participation. Nous vous informons qu'on va consacrer une émission ou deux, peut-être même, pour couvrir la problématique de la protection des enfants au Québec. Alors voilà, sur ça, je vous dis surtout merci à notre technicien de son, Louis-Joseph, et à Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir céder la parole. Alors, à la prochaine. Au revoir.
Non-stop sur les Antilles. Une émission de variété. Un plaisir à la découverte. Une émission à savourer sans modération.
Musique. Information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles.
Mardi, 12h30. Sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
Ici Soundproof et
Pascal.
Entre un café et le trafic, Urban Ways, une façon de débuter le week-end.
Tous les vendredis matin, de 8 à 9, où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill.
Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous.
Fermez la porte du bureau.
Urban Ways, tous les vendredis matin, 8 à 9.
Annoncez votre entreprise à la radio. Faites-vous connaître davantage. Sur Radio Centre-Ville, vous pouvez vous le permettre. C'est plus qu'abordable. Trouvez de nouveaux clients parmi diverses communautés du Grand Montréal et annoncez dans des émissions qui seront pertinentes par rapport à vos produits et services. Développons ensemble la stratégie à adopter. Informez-vous en rejoignant notre département de publicité au 514-495-8836 ou à publicité@radiocentreville.com.
Salsa, reggae, kamba, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip-hop, ragamuffin, mala, tango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. Toute la musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde Montréal.